RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe Davis! Vamos!
Anthony Reich.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. Ah, c'est un petit avant-goût aujourd'hui, je vous le cache pas, de notre balade traditionnelle qui commence à revenir. On est à Roland-Garros, Porte d'Auteuil. C'était le jour de la présentation du tournoi de l'édition 2026. Et avec la team tennis, on s'est installé en tribune pour humer la terre battue. Ça s'affaire un petit peu partout dans Roland-Garros. Et nous sommes sur le cours 7 avec les copains. Salut mon Flo, salut Flo Serra.
Salut Anto, bonjour à tous.
Bon, t'as la doudoune, mais dans 3 semaines, tu l'auras plus.
Non, mais là, on la met, on l'enlève.
On
sait pas trop. Bon, c'est pas Melbourne encore, mais on espère qu'on aura quand même une belle quinzaine. Quand il y a ce temps-là et tout, en principe, ça se passe bien.
Ce qu'on sait, c'est que le 7, il est pas prêt. C'est normal.
Le 7 n'est pas prêt, ouais, c'est... Bon, 7. C'est pas encore les premiers circuits en Égypte où ils faisaient les lignes au dernier moment. Mais bon, la terre a l'air quand même bien.
Ouais, elle a l'air belle. Hein.
Ils vont la préparer. Et puis, il y aura des bons tours de qualif aussi dessus. Donc, je suis pas inquiet là-dessus. La qualité de la terre, elle reste exceptionnelle.
La meilleure du monde, évidemment. Et l'autre membre de la team tennis est là. Salut Morico, salut Rick, salut.
Salut, salut. Non, mais moi, j'en profite parce que là, on est devant le set. Et ils ont tracé les lignes. Et ils vont bientôt peindre les lignes. Quelle différence avec tous les autres tournois des Masters 1000, parce que j'étais à Monte Carlo. Non. Ils ont tous des lignes plastifiées, cloutées. C'est scandaleux. C'est scandaleux, je pense que... Et c'est pour ça que Roland est le tournoi préféré, parce que c'est les plus belles terres du monde avec des lignes peintes. C'est-à-dire que si tu touches la ligne, il n'y aura pas forcément un feu rebond. Alors que sur les lignes plastifiées, non. Sur les lignes plastifiées, tu touches une ligne à Madrid ou à Monte Carlo, le point est fini. Je l'ai vécu lors de ma finale de la Coupe de France des journalistes. Puisqu'il y a mon adversaire a touché la ligne et l'arbitre l'a annoncé faute. J'étais beau joueur, je lui ai rendu en montrant la trace, bien sûr.
On doit rendre hommage à notre Rico, Flo, puisque nous avons devant nous
le
troisième, le vainqueur du tournoi de Monte Carlo, le vainqueur du tournoi de la presse. Troisième titre en Masters 1000 pour Rico Salio. Bravo Rico.
Bravo Eric, mais c'est pas ton premier titre, je crois. Hein.
Je viens de te le dire, troisième.
Troisième
Masters 1000.
Oui, troisième Masters 1000, mais t'as fait aussi ça en championnat de France. Et je sais que tu as un palmarès assez solide quand même là-dessus.
J'ai plus assez de place sur les étagères, oui, il faut dire les choses, oui.
Ah là là, la team Boulard, on adore. Alors, revenons à nos moutons, les copains. Présentation de cette édition 2026, pas de grande révolution, pas de grand chamboulement. On vous promet, je fais un petit teasing, une invitée exceptionnelle à la fin de ce podcast, évidemment. Pour le lancer officiellement cette édition 2026. Oui, donc pas de grand chamboulement, pas de grande révolution, augmentation du prize money de 9,5% si je ne m'abuse, ça fait à peu près 5 millions d'euros au total, avec un effort comme les autres années sur les tours de qualification. Et puis, surtout, en fait, ce qui ressort, Morico, c'est cette volonté d'avoir cet ADN, cette identité à la française qui fait la spécificité de Roland-Garros.
Oui, et je vous avoue que on avait tous vibré, ça paraît dingue de le dire, on avait tous vibré en début d'année sur le 1 million organisé par l'Open d'Australie avec un vainqueur totalement improbable, un amateur. Et on s'était dit, peut-être que Roland-Garros va copier les Australiens. Eh bien non, et je trouve que le ton de cette présentation, c'était justement d'aller en plein contre-pied de nos amis australiens qui recherchent le buzz, qui l'obtiennent, hein. Attention, ça marche, hein. Mais... C'est différent ici, il y a l'authenticité, on le voit avec cette terre battue, c'est authentique, simplicité, avec de la danse, de la gastronomie, les valeurs françaises qu'on aime.
T'es pas d'accord, Flo?
Si, au contraire, là, on parlait justement, j'allais dire, de gastronomie, là on parle pas de burgers dans les allées, quoi, tu vois, on parle de chefs qui viennent montrer
de bord.
Exactement notre gastronomie, mais j'ai l'impression qu'on a deux tournois, l'US et l'Australian.
Deux courants, disons.
Deux courants où ils aiment bien le show, où on aime bien
le buzz.
Le buzz, exactement. Et puis on a Roland, même si ils veulent faire différent de Wimbledon, Roland et Wim, où c'est un fait un peu plus traditionnel, plus authentique. Et c'est vrai que
Amélie
a bien appuyé.
Le traditionnel, l'authentique ou le buzz et le show?
Je sais pas, à l'époque, j'aime bien jouer les quatre, moi. Mais je vais demander wildcard cette année, mais j'ai pas réussi à avoir le macaron parking, je suis pas sûr que j'ai wildcard.
Ouais. Tu n'arrives même plus à rentrer au stade, dis donc.
Non, je préfère. Wildcard, vu les 9% de prize money, là, je serais bien là. J'aime bien.
Tu finiras de payer à la maison.
Non, mais c'est difficile parce qu'on est français. Et le charme authentique de Roland, on a toujours. C'est plus facile de faire venir la famille ici. La gastro, on mange toujours très bien ici. Moi, oui. je préfère ça. Mais bon, quand tu vois ce qu'ils ont fait à Melbourne, c'est très sympa aussi. D'ailleurs, je garde toujours la gourde que Eric m'a ramenée de l'Australian Open. Là, pour les petits, c'est moi qui la prends.
Tu n'as même plus les sous pour aller à Melbourne.
Non, je suis très attaché à tout ce qu'ils font là-bas aussi. C'est là où j'ai gagné mon premier tournoi, le deuxième tournoi.
Ah, ça y est.
C'est Melbourne. J'adore l'Australie et c'est vrai que c'était génial ce qu'ils ont fait.
Non, mais on est sur deux identités, deux cultures différentes, donc c'est normal qu'il y ait des différences. Il faut cultiver cette différence et Roland Garros le fait très bien. L'autre point, si j'ose dire, peut-être de changement, même s'il n'y a pas vraiment de changement, hein, c'est tout ce qui concerne un peu les qualifs, parce qu'ils veulent encore une fois avoir plus de monde, et ça c'est quand même positif, parce que si vous n'avez pas réussi à avoir de place pour le tableau final, je crois qu'il y a encore des places à la vente pour les annexes, pour les qualifs, donc vraiment événementialiser les qualifs, et puis surtout il va y avoir un événement pendant ces qualifs, les copains, ça va être le 21 mai, ça va être la soirée Gaël Monfils.
Ah ouais, avec ça peut être un grand moment de joie, de ferveur, de partage, avec une billetterie qui sera ouverte aujourd'hui, je crois, donc ce jeudi. C'est un pari quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont remplir le central?
Le nom de Gaël.
Ouais, sur le nom de Gaël. Mais c'est vrai que je pense qu'ils prennent pas trop de risques parce que Gaël, bah c'est sa maison ici. Et puis là, il a livré tellement de batailles somptueuses que les gens ont envie de partager avec lui. On avait préparé l'émission. Gaël détient quand même le record de match en 5-7 ici. Il avait effacé, je crois, des tablettes Yannick Noah. Ouais. C'est pour vous dire. Donc, ce mec sait faire le spectacle. Il a gagné des matchs, mais qu'on n'oubliera jamais. Moi, je me fais chambrer encore. Je m'étais fait chambrer par Cazard quand je m'étais emballé sur la balle de match contre Baez. Dès le lendemain, Cazard s'était foutu de moi parce que c'était qu'un premier tour. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là pour vivre ce qu'on a vécu. Une remontada extraordinaire, 4-0, balle de 5-0.
Un match qui restera dans l'histoire du
tournoi. Mais bien sûr. Donc la Monf, et c'est marrant parce que les autres, ils n'ont pas eu ce petit privilège. Hein. Richard, Gilles et Joe, ils n'ont pas eu ça. Hein. C'est vraiment un truc spécial, Gaël. Et je pense que c'est une très très bonne idée de la part d'Amélie. Et je suis sûr que le stade sera rempli parce qu'il a, une communauté, la Monf, bien sûr.
Ouais, non, c'est sûr que ça va être une sacrée soirée. Alors, ça sera à but caritatif. Hein. Tout le chiffre d'affaires sera reversé à une association. Donc ça, c'est aussi à noter et à mettre au crédit de Gaël Monfils. Il méritait ça, Gaël, quand même. Un flow.
Oui, oui, c'est vrai que à chaque fois qu'il est venu ici, ou de toute façon, il est adoré dans le monde entier. Mais à chaque fois qu'il rentre sur le court, on le voit, hein, que ce soit à l'étranger, en France, les gens peuvent devenir fous. Gaël amène ça. Il peut amener ses matchs dans une dimension extraordinaire où en fait il y a plus le jeu et la technique qui compte. C'est Gaël qui fait le show, qui court partout. Il est par terre entre les points, il court partout pendant.
Des arabesques, des grands écarts, des sauts.
C'est ça. C'est ce qui a fait son charme depuis le début d'ailleurs, ouais, depuis qu'ils sont tout petits. Où il faisait 5-7 avec Gilles Simon sur les cours du CNE sous le 7, là, où le lendemain ils allaient jouer sur terre et ils avaient joué 5 heures sur dur la veille. Gaël se fracassait le genou, il allait jouer en tournoi et il était par terre il gagnait les matchs comme ça et finalement il était vraiment blessé, où il était par terre et courait partout. Mais à chaque fois il se passe quelque chose. Vous parliez de contre Sébastien Baez aussi, c'est vrai que c'était un moment super. Et quand il se retire, mais on est toujours, on est triste en fait, parce que quand on l'attend, on se dit toujours, j'ai toujours attendu Gaël en se disant, ah là c'est son année, il va faire un truc de dingue et tout, il a déjà bien joué. Et quand on l'attend pas, c'est là où limite il est le meilleur, ici, hein. Demi-finaliste et tout. Mais à chaque fois, j'ai toujours, quand il a joué Djoko et tout, j'ai toujours été un peu déçu. Mais en même temps, quand il rentre sur le terrain, voilà, t'as pas envie que le match s'arrête. Et ça, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est sympa de lui faire un hommage particulier. C'est à but caritatif, comme vous l'avez dit, mais avec plein de joueurs qui vont faire. Il va y avoir des festivités. Il y a tous ses amis qui sont là. Donc, je trouve que c'est sympa, ouais.
Je vous propose de passer au moment invité, puisque nous avons eu le plaisir d'échanger avec Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi de Roland. Vous allez voir, elle dit des choses intéressantes, quand même, Amélie Mauresmo. On a l'honneur d'avoir Amélie Mauresmo avec nous, la directrice de Roland-Garros. Bonjour Amélie.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être dans cours numéro 1 pendant quelques minutes. Bon, on a vu, il n'y a pas de révolution dans cette édition 2026 par rapport à 2025, qui était une grande réussite. Mais on a quand même l'impression qu'il y a cette quête et cette volonté d'avoir cet ADN, cette identité française avec la mise en place du Jardin des Chefs. On ne veut pas répliquer ce que font d'autres tournois du Grand Chelem. L'identité Roland-Garros est importante.
Oui, je crois que c'est très important pour nous. Effectivement, l'idée, ce n'est pas de copier, de se calquer absolument sur ce que font les autres. Et Gilles l'a dit, pour le coup, si on parle de l'Australie, ils ont une identité qui est quand même très entertainment, festive. Ils sont en plein été aussi chez eux. Les gens ne travaillent pas, sont en vacances, etc. Donc il y a une ambiance aussi qui est un petit peu différente globalement. Wimbledon a aussi son identité. L'US Open, on connaît, c'est un peu le brouhaha, etc. Donc nous, on est... on a à cœur de rester fidèle à nos valeurs, à notre identité, sans oublier quand même d'aller de l'avant et de bouger les lignes. Effectivement, ça faisait un moment qu'on voulait mettre en avant la gastronomie. Vous parliez de côté français et on est fiers de ça. Donc effectivement, il y aura le Jardin des Chefs cette année côté Simone Mathieu là-bas. On a aussi la Tribune Concorde qui est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur d'aller dans Paris, d'aller à la rencontre des gens aussi, parce que tout le monde ne peut pas venir, on le sait, on nous le reproche beaucoup, peut pas venir, on est limité voilà, en termes de nombre de personnes qui peuvent venir ici à Roland-Garros. Donc on a envie aussi gratuitement d'avoir un autre public qui s'intéresse à ce tournoi, à ce qu'on fait et à ce qu'on propose. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Les services aux joueurs sont toujours améliorés parce que c'est eux qui sont au centre de l'événement. C'est eux qui performent, comme on l'a vu l'année dernière, de façon exceptionnelle. Donc c'est eux qu'on a envie de mettre dans les meilleures conditions. Mais pour autant, tous les spectateurs qui vont rentrer dans le stade, on a envie de leur proposer aussi, que ce soit dans les animations, dans leur accueil, dans des choses exceptionnelles. Donc oui, on a envie d'excellence, on a envie d'une qualité toujours améliorée. C'est un peu notre leitmotiv finalement chaque année.
Amélie, parlez-nous de ce qui va se passer avec Gaël, mon fils. Ouais. Parce que là, c'est quand même un truc de fou. Les autres joueurs n'ont jamais eu ce privilège. Il aura une soirée pour lui tout seul.
Exactement. C'est un projet qu'on avait aussi, je parle de jardin. Il y a pas mal de choses qui mûrissent dans nos têtes et qu'on met parfois plusieurs éditions à pouvoir vraiment mettre en place. Et là, l'opportunité d'avoir la DER de Gaël pour cette année à Roland-Garros, on s'est dit, voilà, avec sa personnalité, avec les gens qui l'adorent, on aimerait faire une soirée caritative autour de Gaël, et presque en lui donnant les clés du camion, entre guillemets, et une forme de carte blanche, parce que Gaël, c'est le joueur de tennis, donc le tennis sera présent, avec un format un peu différent, justement, de jeu, des équipes mixtes, etc. Donc une mini-compétition, quand même, pendant 45 minutes, une heure. Et puis son côté showman, il adore la musique, il aime danser, il est très festif aussi, Gaël. Il aime s'éclater et aussi lui donner cette opportunité-là avec ses potes, avec Martin Solveig, avec Franck Lisch, avec Matt Pokora qui sera là aussi pour animer, avec Paul de Saint-Cernin qui mettra des petits pics de temps en temps aussi pour accompagner tout ça. Et l'idée, c'est que les gens, pour une soirée autour de Gaël caritative, ça c'était très important pour nous, très important pour lui aussi. Tous les bénéfices seront reversés aux associations, soit de la Fédé, soit du choix de Gaël. Et voilà, d'avoir un moment fun et avec les meilleurs joueurs et joueuses qui seront aussi là pour nous accompagner. Donc c'est top.
Parlons d'un ancien vainqueur, Amélie, Stan Wawrinka, qu'on adore dans cours numéro 1. Il paraît qu'il sera à Genève la semaine des qualifs. Il paraît. Qu'est-ce qu'on fait pour Stan Wawrinka ?
On va voir, on en parlera dans quelques temps. On l'adore, Stan. Non, mais vous savez bien que je ne peux pas tout vous dire sur les wildcards. Et en plus, on n'a même pas commencé à avoir les réunions là-dessus. On a pu avoir quelques discussions déjà avec Gilles à ce sujet. Mais franchement, on va avancer tranquillement. Je ne suis pas la seule, pour le coup, décisionnaire sur ces wildcards. Mais on verra.
Florent. C'est l'info RMC, ça.
C'est l'info RMC que j'ai recueillie à Monte Carlo.
Bien sûr.
Non, mais là, vous avez vendu la mèche. Vous avez vendu la mèche, là. Dernier match au stade. Donc, il a la wild card.
À l'issue de son dernier match. Avant, pas du tout.
Dites-le nous.
Mais il a pas. À l'issue de son dernier match, enfin, arrêtez.
Florent.
Non, j'ai pas de questions sur les Français. Non, pas sur les wildcards. Tu sais très bien, j'en ai assez fait partie des wildcards. Je peux pas dire à Amélie, je sais très bien que ça va se décider une semaine, 10 jours avant. Donc, je peux rien dire. Je suis de l'autre côté, mais je peux rien dire.
On a parlé de Moïse Kouamé, mais on parle aussi beaucoup, nous, sur Cours numéro 1, de Loïs Boisson, qu'on adore et qui a rentré un peu dans le cœur des Français l'année dernière. Quand vous, qui avez été au très haut niveau, au plus haut niveau, quand on a une période d'indisponibilité aussi longue, est-ce que c'est bien positif de se préparer caché? On n'a pas de repères, on arrive dans un peu comme l'année dernière, en fait, elle va arriver.
Oui. Alors, moi, si je répondais pour moi, dans mes souvenirs d'athlète, j'aurais pas aimé ça. Parce que j'avais besoin de reprendre confiance, de rematcher, j'avais besoin de regagner un petit peu des matchs, etc. Je mettais du temps pour retrouver la confiance. Après, Loïs, elle a une expérience exceptionnelle l'année dernière, qu'elle a déjà vécue quasiment. Donc, j'ai le sentiment pour elle qu'à partir du moment où elle est bien préparée, et c'est là où on ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est effectivement de cette préparation-là, elle est capable, boum, comme ça, dès ses premiers matchs finalement, d'avoir un niveau déjà très élevé. Donc c'est l'inconnu, mais je pense qu'il faudrait pour elle dans sa tête qu'elle arrive à se dire que même si elle arrive un peu tard, prête pour le tournoi, qu'elle est, elle est capable quand même d'aller, d'aller très haut, quoi.
Amélie, je suis sûr que vous aimeriez un jour être la directrice du tournoi qui a mis sur place une finale du simple dame en 5-7. Je suis sûr que ça vous tient à cœur. Parce que je pense que c'est une bonne idée. Moi, je le pense franchement.
Je pense qu'il y a... Franchement, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que tout le monde aurait à y gagner. Et en premier lieu, probablement les joueuses. Et la vainqueur, finalement, de cette finale-là. Je pense que ça a besoin de consultation, ça a besoin que tout le monde soit convaincu, que les joueuses en particulier soient vraiment convaincues que ça pourrait leur apporter. Mais j'entends aussi leur argument sur des discussions qu'on a déjà pu avoir, de dire le match le plus important du tournoi, vous nous le faites jouer dans un format qu'on ne connaît pas quasiment, ou quasiment pas. Donc je peux entendre ça aussi. Donc c'est pour ça que l'idée sur des idées comme ça ou sur des projets comme ça, c'est pas de passer en force. L'idée, c'est plutôt de se dire allez, on tente tous ensemble et finalement on va vers quelque chose d'autre. Donc les discussions, elles peuvent avoir. Moi, j'aurais aimé en tant que joueuse le faire. Voilà, après j'entends aussi que c'est pas si simple que ça.
Sinor Alcaraz, on a l'impression que depuis la finale l'année dernière, Yannick Sinner, il est dans une quête perpétuelle de progression et qu'il a énormément progressé sur Terre, à l'image de la finale de Monte-Carlo. Il va peut-être y arriver, là.
Il était déjà pas loin l'année dernière d'y arriver, hein, donc de toute façon, on sait qu'il en est capable. Je prends pas un gros risque en disant qu'un jour, ce gars-là gagnera Roland-Garros, je pense. Maintenant, effectivement, il est aujourd'hui dans une forme impressionnante et sur Terre aussi. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe. Et puis ils sont tous les deux en quête de mieux, d'encore mieux. Donc moi, j'aime bien être spectatrice et témoin finalement de tout ce qui se déroule sous nos yeux. Et on ne sait pas, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'à l'approche du tournoi, on a un tableau, on a 128 joueurs, 128 joueuses et on ne sait pas ce qui va se passer. On pense qu'on a des favoris, il y en a qui sont au-dessus du lot, évidemment. Mais il faut encore pendant cette quinzaine-là, produire le tennis. Donc moi, j'adore ça, j'adore cette posture-là de prendre ce recul et de se dire on est témoin de tout ça.
Flo, dernière question pour Amélie, après il faut qu'on la libère. Peut-être Arthur Fils, qui est notre grande chance.
On aimerait bien avoir un Français venir, surtout à Roland, parce qu'on parlait souvent d'Arthur, capable peut-être de venir titiller un peu les meilleurs. Il l'a montré l'année dernière, il est de plus en plus régulier aussi sur les Masters 1000, et après une longue absence, ça lui tenait à cœur, en plus de se préparer et d'être à fond. Comment tu vois justement Arthur sur Roland, sur un format où il faut qu'il enchaîne des matchs en 5-7 pour après pouvoir se livrer dans une deuxième semaine où là il risque de rencontrer les meilleurs? Comment tu vois les chances françaises et en particulier celle d'Arthur, bien sûr, qui va être attendue encore?
Alors déjà, c'est vrai que si on parle des quand un Français brille, et moi j'ai vu ça de très près l'année dernière avec Loïs, le tournoi prend vraiment aussi une autre dimension et l'intérêt général grandit de façon exceptionnelle. Et Arthur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est lui qui est vraisemblablement le mieux placé pour porter ces attentes-là. Et il m'a beaucoup impressionné sur son retour à la compétition. Très franchement, il a été tout de suite à titiller les meilleurs, à montrer que son jeu, il était bien en place, à montrer que physiquement, il avait fait le job pour être hyper affûté et se repositionner tout de suite parmi les meilleurs aussi de ce point de vue-là, malgré la blessure dont il sort qui n'est pas évidente. Donc, et puis, on le sait, ça, on ne le sait pas de là, on le sait qu'il a l'état d'esprit, qu'il a les crocs, qu'il a faim d'aller et qu'il y croit. Qui croit qu'il peut aller chercher ces titres-là.
Il a mis plein de choses autour de lui pour essayer justement, je pense, d'arriver à ça.
Mais ça, ce sont des signaux qui ne trompent pas. C'est-à-dire que tu ne t'entoures pas comme il l'a fait, tu ne fais pas tout ce qu'il a fait, de ce qu'on a su, sûrement d'autres choses qu'on ne sait pas, si tu n'as pas ces objectifs-là et si tu ne penses pas que tu peux arriver à ces objectifs-là, qui sont des objectifs de fin de Grand Chelem, de deuxième semaine à minima, mais plutôt de fin de Grand Chelem, voire de victoire finale. Alors, ce ne sera peut-être pas pour 2026, mais en tout cas, on sait que lui, c'est sa quête finale, elle est là. Donc oui, je pense que si son corps le laisse tranquille, et c'est Arthur, c'est celui qui a probablement la meilleure chance d'aller le plus loin dans le tournoi, c'est évident.
Oui. Merci. Il vous ressemble, Amélie. Vous aviez votre projet de gagner un chelem, d'être numéro 1, et vous aviez beaucoup investi, et ça avait payé.
C'est pour ça que je parle des signaux forts, quand tu t'entoures de cette façon-là, que tu investis de ta personne, de ton argent, de tout, vers des gens qui vraisemblablement sont là pour te dire des vérités et pas pour juste te brosser dans le sens du poil, à te dire oui c'est bien ce que tu fais alors que tu fais pas ce qu'il faut. Et ben je pense que ça c'est un vrai signe fort qu'il a envie d'aller tout en haut et qu'en tout cas il a envie d'exploiter au maximum son potentiel. Et pour le coup c'est aussi ça effectivement qui me fait dire que il peut vraiment, il met toutes les chances de son côté pour y arriver.
Merci beaucoup, Amélie. Merci.
Bon tournoi.
Ah, c'était sympa, les copains. Hein. Bel échange avec la directrice qui croit encore à Loïs Boisson, qui est aussi persuadée que Arthur Fils va aller loin dans cette édition. Rapidement, ton prono, Flo. Arthur Fils, on le voit en deuxième semaine.
Arthur, on en a parlé souvent dans nos anciens podcasts, dans nos précédents podcasts. C'est les meilleures chances rêvées pour moi et physiquement j'ai envie de voir comment il se sort de cette première semaine déjà. S'il laisse pas trop d'énergie non plus, je pense qu'il met tout, comme dit Amélie, tout autour de lui, il met tout en œuvre pour pouvoir, si c'est pas cette année, mais pour pouvoir dans quelques années aller le plus loin possible ici et son objectif c'est de gagner. C'est l'enchaînement un peu des matchs qui me fait un peu peur, mais il essaye de s'entourer des meilleures personnes pour pouvoir être le plus jouer le plus longtemps possible, enchaîner les matchs surtout. C'est juste l'inquiétude que j'ai, c'est l'enchaînement des matchs en 5-7, des matchs de plus de 3 heures. Donc voilà, de plus de 3 heures et de revenir sur le terrain et de recommencer et d'aller jouer les meilleurs. Mais je pense qu'il va y arriver. Je pense qu'on peut, le voir sur une deuxième semaine. Je suis plus réservé sur Loïs où Amélie dit elle a super bien joué l'année dernière, il n'y a pas de souci, elle peut revenir comme ça et bien jouer. Moi, je trouve que si tu n'as pas fait de match quand même avant, officiel et tout, on va un peu plus la regarder et l'attendre. Et je pense que ça peut être compliqué de reproduire ce qu'elle a fait l'année dernière sans avoir véritablement de match officiel.
T'es encore un peu perplexe quand même. Hein. Depuis pas mal de semaines, de toute façon, t'es assez en retrait sur ce. Voilà, t'y vas à tâtons parce que on sent que t'as besoin de voir encore Loïs Boisson jouer. Et voilà, c'est ça. On a besoin de la revoir. Pour conclure, Rico, moi je trouve, pour finir sur Arthur Fils, parce que ça reste quand même notre porte-étendard hein, sur cette édition-là, comme le disait Amélie très justement, en fait, il a mis la table, il a dressé le couvert. Et maintenant, il faut qu'il trouve la meilleure recette pour aller conquérir toutes ses convives.
Oui, mais comme elle le dit aussi, elle le sous-entend, ce ne sera peut-être pas cette année. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit il y a un mois et demi, parce que la concurrence est folle. Amélie, quand elle parle de Yannick Sinner, on sent qu'il y a beaucoup d'admiration. Que pour l'instant, l'Italien, il a placé le curseur très très haut. Maintenant, Arthur, on va attendre. De toute façon, le moment clé... Ça va être quelques heures avant la soirée de Gaël, ça va être le tirage au sort. Voilà, on le sait. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera tête de série. Ça va dépendre de ses perfs à Barcelone, à Madrid, à Rome. Et puis pour Loïs, je comprends qu'Amélie, elle aimait bien jouer avant. Bien jouer. C'est vrai qu'elle avait la chance de gagner Rome ou de bien jouer dans les tours précédents. Mais Loïs, elle aura peut-être une petite deuxième chance si jamais ça se passe mal à Madrid et Rome, c'est qu'elle pourrait retourner. Alors, je sais que ça va être compliqué pour elle, mais le trophée Clarins,
oui, qui est juste
elle
avant,
pourrait avoir une wildcard et puis regagner des matchs contre des filles un peu moins fortes.
Et un peu à l'abri des regards.
Ouais, mais surtout, elle retrouverait l'endroit où elle s'est blessée. Alors, je ne sais pas si elle a très envie de retourner dans le bois de Boulogne, mais en tout cas, ça peut être une solution pour regagner des matchs et retrouver de la confiance parce que, on le sait, comme tous les joueurs, ça, tu marches à la confiance. Donc moi, je ne suis pas encore inquiet. On sait qu'elle a repris l'entraînement dans le sud de la France. Elle ne voulait pas jouer Rouen parce que c'est vrai que les conditions indoor, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais on va la surveiller de près à Madrid, bien sûr, et surtout à Rome.
Ouais, on a hâte en tout cas. Ça fait du bien, les gars, de revenir là. On a repris le pool, les repères, comme d'habitude. Rien n'a changé. Les cabines RMC sont toujours là. Tout va bien. On sera prêt pour vous livrer un magnifique Roland Garros version 2026. À très bientôt sur RMC. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
RMC, cours numéro 1.